souviens de nous et d'autrefois, de fils barbelés, de prisonniers du pays aux horreurs, où l'on brûla vos frères et vos sœurs. Parfois vos crimes hantés, j'ai mal, me rappelant l'infernal.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester.
Le pasteur allemand, Martin Niemöller, a survécu au camp de concentration nazi. Ce sermon, il l'a prononcé devant une communauté protestante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charles Zelti avait 15 ans lorsqu'il a rejoint un groupe de résistants, communistes, juifs, en août 1942 à Lyon. Arrêté le 7 mars 1944, après avoir transité par Drancy, il arrive avec le convoi numéro 70 à Auschwitz.
Il sera libéré à Bergen-Belsen en avril 1945. Il n'a cessé depuis de témoigner pour expliquer comment ce cauchemar collectif a été rendu possible et ce qu'il a été. Quand il reprend les mots du pasteur Niemöller, c'est bien pour pousser à la vigilance permanente, pour crier. Plus jamais ça. Mais le cri ne suffit pas, il faut expliquer, faire comprendre.
C'est ce qu'il a fait avec nous à Auschwitz, par une belle et douce journée de printemps, d'un bleu limpide, où entre ses commentaires, ceux d'Alban Perrin venu du mémorial de la Shoah, ceux de Teresa, notre guide polonaise, il n'y avait place que pour de lourds silences, perturbés par le léger gazouillis des oiseaux. Et pourtant...
Pendant la guerre, la Sarthe était bien sûr occupée par les Allemands. En 1941, 373 Sartois juifs étaient recensés dans le fichier départemental, très peu sur la partie nord et ouest du département. Ils habitaient sur Le Mans et des communes comme Château-du-Loir, La Flèche ou Saint-Jean-de-la-Motte.
La loi anti-juif du gouvernement de Vichy et le séculaire allemand s'appliquent en Sarthe comme ailleurs. Dès 1941, les premiers juifs arrêtés sont emprisonnés à la prison de Vergalen au Mans.
Le 16 juillet 1942, 55 Sartois juifs sont arrêtés dans une rafle. Après le camp de Mulsanne, ils sont conduits au séminaire d'Angers. Ils seront transportés d'Angers vers Drancy le 20 juillet. Pour la plupart, ce ne sera qu'une halte car le train continuera jusqu'à Auschwitz. C'est le convoi numéro 8. D'autres Sartois seront recensés sur 19 convois, la dernière rafle qui frappera plus de 60 personnes se déroulant fin janvier 1944.
D'après les chiffres donnés par Jacques Chénier dans son livre « La Sarthe déchirée », 181 juifs de Sarthe ont été déportés. Parmi eux, un seul a survécu.
Il faut souligner avec force qu'en Sarthe, beaucoup de juifs ont été sauvés et principalement des enfants, peut-être plus de 400. De nombreuses familles, comme la famille Guillemin de Bonnétable, ont protégé des enfants venus de Paris. Dans quelques instants, vous entendrez évoquer les noms des familles Martineau ou Cartier. Plus de 20 familles sartoises ont reçu le titre de juste parmi les nations, décerné par Yad Vashem.
Henri Joannovicite est réfugié en Sarthe pendant la guerre. Grâce à l'aimable collaboration de nos collègues du lycée Sud au Mans, nous avons pu le rencontrer alors qu'il venait de Paris pour témoigner.
En 1942, à l'époque exactement de l'arrestation, j'avais 6 ans et demi.
Et à cette date, donc en 1942, vous étiez en Sarthe, votre famille était réfugiée, toute votre famille ?
Pas tout à fait toute ma famille. Mon père était resté à Paris pour travailler, d'une part, et il a été arrêté à la rafle du 16 juillet 1942. Ensuite, j'ai eu une tante, c'est-à-dire la sœur, une sœur de ma mère avec son mari qui n'avait pas d'enfant, qui sont allés se réfugier en Savoie. Eux ont échappé aux arrestations, mais autrement dit, tout le reste de ma famille, c'est-à-dire ma mère, mon frère, ma sœur, une tante qui était célibataire, dont son fils qui avait été démobilisé, qui avait fait son service militaire, avait été arrêté le 29 mars 1941, interné au camp de Drancy et fusillé comme otage le 21 février 1942 au Mont Valérien. En plus, il y avait à Château-du-Loir, qui résidait avec nous, un oncle, Mosek Lipka, sa femme Golda, son fils Léon, sa fille Rachel et son fils Roger. Tous ont été arrêtés le matin du 12 octobre 1942 à Château-du-Loir, dans une maison troglodytique.
Qui vous a accueilli en Sarthe et comment vous êtes arrivé dans cette famille ?
Dans cette famille, nous résidions parce que la tante, la mère célibataire, vivait maritalement avec le propriétaire qui s'appelait Monsieur Bagatchkov, qui était un Russe blanc, qui était propriétaire de la maison et qui nous a accueillis dans cette maison.
Aviez-vous conscience des dangers qui vous menaçaient ?
Absolument, c'est une question d'instinct, car à 6 ans, le port de l'étoile était obligatoire. Et lorsque j'ai mis l'étoile et que j'ai vu, je suis allé voir une tante, on était encore à Paris, les larmes qu'elle a versées en me voyant avec l'étoile, ce qui signifie qu'on est quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, et en plus tout ce qu'on pouvait entendre avec l'arrestation, tout ce qui a pu se produire, la mort de mon cousin, donc j'étais le plus jeune et lui c'était l'aîné puisqu'il avait 22 ans, fait qu'on a pu prendre conscience.
En juillet 42, c'est le drame pour votre famille. Racontez-nous ce qui se passe.
En juillet 42, mon père étant resté à Paris a été arrêté. Donc c'était le drame qui continue, étant donné qu'au mois de février, il y a un cousin qui a été fusillé, pris comme otage, comme je viens de vous le dire. Et là, étant donné qu'avec ma mère, mon frère et ma sœur, nous sommes venus rejoindre tout le reste de la famille Lipka, qui était déjà à Château-du-Loir. Donc, c'était le drame qui continuait.
Savez-vous ce qu'est l'état devenu de votre famille par la suite ?
Eh bien, le manque, leur absence à l'hôtel Lutetia, où les gens qui n'avaient pas été arrêtés venaient récupérer et voir à l'arrivée des convois après la déportation de tous les anciens déportés, et il n'y avait personne, et à chaque fois, à chaque convoi qui revenait en 45, il n'y avait personne jusqu'au jour où il n'y avait plus de convoi.
Pour vous, comment s'est terminée la guerre ?
Alors, pour moi, j'ai eu une chance extra, c'est que lors de l'arrestation, j'ai pu m'échapper, ma mère m'a fait échapper avec quelques guenilles sur le dos et rejoindre une famille de juifs qui était cachée, mais vraiment clandestinement, dans une maison qui se trouvait à peu près à 1 kilomètre, qui appartenait à la famille Cartier. Et là, je suis allé pendant la nuit parce que je savais, par l'instinct, par la mémoire, parce que est arrivé chez les quartiers, et c'est là qu'ils m'ont recueilli, où j'étais blotti, que je leur ai appris ce qui venait d'arriver quelques heures auparavant, et les quartiers cachant déjà une famille juive, un couple qui s'appelait Price avec un enfant, plus 3 adultes dont les parents avaient été arrêtés à Paris avant, pendant la rafle, je crois, de juillet. Donc ça faisait beaucoup de monde et ils ont appelé Madame Cartier, son frère, avec son épouse qui était résidant à Tours, mariée sans enfant. Ils sont venus le dimanche et je suis parti avec eux. J'ai passé tout le reste de la guerre avec eux et j'avoue qu'ils m'ont apporté beaucoup d'amour et ça ternit, non moins, ça,
ça a pêché et ça a empêché de noircir la perte ou la disparition de mes parents. Ils m'ont consolé, ils m'ont gardé comme leur enfant. Et ça adoucit un peu le sort, l'absence des parents.
Pas avoir comme mon pauvre cœur est lourd. Pourtant je le sens ce soir, l'amour n'interdit pas l'amour. Le jeu recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore mon tour. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu, tendre d'espoir, bouquet d'un soir, dont le parfum n'a plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse, et chaque amour est un retour au paradis perdu.
Dans les années 60, M. Brier a collecté sur son magnétophone plus de 100 témoignages sur la période de la guerre dans le Sud-Sarthe. Franck Pohu, chargé de mission, a fréquencié sur la sauvegarde de la parole sartoise, programme mené avec les archives départementales de la Sarthe, a mis à notre disposition un long témoignage de M. Wolf Sokolowski, qui a survécu aux rafles de 1942 et 1944.
Après la guerre, il est parti vivre en Israël. Il était venu de Pologne en France juste après sa naissance en 1928. Il habitait à Paris jusqu'à ce qu'il soit évacué du 20e arrondissement en 1940. Quelques extraits de ce témoignage inédit.
Dans ce temps-là, mes parents, je crois qu'ils gagnaient bien. On vivait dans la rue Piat, on avait un appartement. Un jour, avant qu'on a, ça a éclaté la guerre, mon père il est venu me chercher, il m'a emmené à Saint-Jean-de-la-Motte. J'étais très, très, très impressionné des Allemands qui sont arrivés à Saint-Jean-de-la-Motte. On était toutes sortes de gamins dans le village. Alors il y avait des juifs et pas de juifs. Hein, tous on était tous ensemble comme ça. Et j'ai eu une peur. Ce jour-là, c'était, je crois que c'est ça qui m'a sauvé la vie aussi, à la fin du compte. J'ai vu comment des Allemands avec des motos et des mitraillettes, je crois que c'était la Gestapo, ils avaient un croix de mort ici, sur des ceintures des croix de mort, des plaques ici sur la gorge avec des croix de mort, et de les voir, c'était horrible, comme ça qu'on voyait la mort en face qui venait nous. Alors, on s'est tous sauvés d'eux tellement qu'on a eu peur, et j'ai eu une peur formidable. Nous, avec mes cousins, mon cousin, mes cousines, et mes sœurs, on a été dans ce café. Encore une fois, comme des enfants, on voulait voir comment c'était des Allemands. Qu'est-ce qu'on prenait de la guerre, qui sait que, comment qu'on savait que ce que ça va arriver après le temps. Alors, il y a un Allemand, un blanc. Ça, ce que je me rappelle, c'est qu'il était blanc. Blanc. Il nous a pris sur ses genoux. Il nous a donné du chocolat. Il nous a dit, on parlait un peu le yiddish à la maison. Je ne savais pas dans ce temps-là le yiddish non plus. Mais j'entendais bien, je comprenais beaucoup parce que les parents, ils parlaient des fois yiddish à la... Alors ça ressemble un peu à l'allemand, cette langue-là. Alors il nous a dit de nous sauver, de nous cacher, parce que c'est pas comme lui qui vient de nous donner des chocolats, il y a des Allemands qui tuent des Juifs. Et si vous pouvez sauver de ces Allemands-là, un Allemand qui nous a dit ça. En 1941, mon père, il a été démobilisé, il revient là-bas. Et à ce moment-là, les Allemands, ils ont commencé la guerre en Russie.
Oui.
Et ils devenaient plus en plus contre les Juifs. Et ils ont obligé ce que je n'ai jamais fait ça. L'étoile juive.
Ah, l'étoile, oui.
Ils ont distribué à la mairie. Je ne me rappelle pas exactement. En tous les cas... Ils ont distribué l'étoile juive que j'ai jamais portée. J'étais contre de porter ça. Et encore une fois, je n'ai pas porté. Et personne de ma famille a porté l'étoile juive. Et personne à Saint-Jean-de-la-Motte, même qui nous ont distribué ça, ils ne nous ont pas demandé de mettre ça. J'ai dit à mon père aussi, ne va pas, cache-toi chez les paysans, travaille chez les paysans, cache-toi. Moi, je ne vais pas avec toi à Paris. Alors, moi, je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas. En tous les cas, je suis arrivé chez les Martineau. Je leur ai demandé secours. Et je entends bien que je ne voulais pas pour rien que je travaille chez eux comme eux. Ils m'ont accepté. Et je peux dire qu'ils se sont très bien conduits envers moi. Dans ce temps-là, c'est en garde, d'après que je sache, c'est ce que ma mère m'a raconté, c'était au mois de juillet 42, où il y avait la grande frappe à Paris. On est venu chercher mes parents, alors ma mère, elle a entendu, il y avait chez nous, dans la chambre, un mur avec une armoire dans le mur. Et ils avaient, enfin tout ça, on m'a raconté, c'est ma mère qui m'a raconté ça après. Et elle a mis mon père dans le mur et on ne l'a pas trouvé. Comme elle était enceinte, on ne prenait pas dans ce temps les femmes enceintes. Alors on n'a pas pris mes parents. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Que mon père, je ne sais pas, j'ai entendu ça par des autres. Mon père, il était attaché avec les partisans. Et comme il était attaché avec les partisans, il avait des relations et il s'est sauvé en France du Sud. Et alors ils sont partis dans un train. Et dans ce train, il y avait 4 hommes et une femme. Et sur la ligne de débarcation, cette femme, elle a dénoncé les 5 hommes. C'est pas qu'il y avait seulement des Juifs. Il y avait des Juifs, des chrétiens, je ne sais pas. Enfin, c'était des Français qui voulaient se rejoindre aux partisans dans le Sud. Et sur la ligne de débarcation... On a arrêté tous ces 5 hommes, parmi eux mon père, et on les a envoyés à Drancy. Et de Drancy, même mon père, il m'a envoyé, parce que j'habitais plus avec ma mère dans ce temps-là, j'habitais chez les Bartineau, il a envoyé des souliers, et il a écrit à ma mère, enfin on le laissait encore écrire, parce que je crois que dans ce temps-là, on a mis les Juifs à part et les chrétiens à part. Alors ça, je crois que dans ce temps-là, il était encore parmi tout le monde. Et il a envoyé des souliers à ma mère. Il m'a dit, j'ai pas, il a écrit comme ça, qu'il a plus besoin de ces souliers-là, mais si tu veux les donner à Wolf, qu'il est, ils sont un peu
abîmés,
il faut que lui-même y répare. Alors elle a compris que ce qu'il y avait, parce que lui, il a parti dans le... Il voulait partir chez les artisans avec de l'argent. Alors elle a compris qu'il avait, que mon père a mis de l'argent dans ses souliers. Alors elle m'a, comme elle savait que moi, dès que j'allais toujours voir de temps en temps ma mère, qui habitait, qui pendant ce temps-là, qui a retourné... Ah, quand on a pris mon père, ma mère l'a tourné dans son appartement à Saint-Jean-de-la-Motte, parce qu'ils ont conservé, malgré tout, ils ont conservé cet appartement à Saint-Jean-de-la-Motte, et moi, elle m'a dit d'arracher les talons des souliers. J'ai arraché les talons, il y avait plein d'argent dans ces talons. C'est ça que je me rappelle exactement.
Votre papa, vous ne l'avez jamais revu?
Non. Oh, ce que d'après les papiers que j'ai ici,
il serait mort où?
À Auschwitz, et en 42. Ils ont, en 42, comme ils ont fait une rafle à Paris, ils ont fait aussi la rafle à Saint-Jean-de-la-Motte.
Dans le même moment?
À peu près, je crois, dans le même moment.
Vous ne savez pas la date de Saint-Jean-de-la-Motte?
Je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est en 1942. Et vous voyez bien, d'après les papiers que j'ai amenés, c'est qu'ils ont été exterminés en 42 à Auschwitz. Alors, je suis sûr qu'ils ont été pris en 42, et je sais que c'était pendant l'été, exactement le mois, je ne me rappelle pas. C'était avant l'été, avant qu'on finisse l'école, parce qu'on est venu chercher les jumelles à l'école de Saint-Jean-de-la-Motte, et je ne sais pas qui c'est qui le racontait, ou que tout le monde est, et mon cousin qui travaillait au garage. Et à ma tante, on est venu la chercher à la maison, et les villageois qui ont vu ça, et après la guerre, ils m'ont raconté, c'était affreux. Ils l'ont tiré avec les cheveux, elle voulait pas aller, alors ils l'ont tiré avec les cheveux, ils l'ont, avec la force, ils l'ont jeté dans le camion. Un beau jour, j'ai pris mon paquet et j'ai été chercher une autre ferme assez loin. J'ai fait des kilomètres, jusqu'à ce que je suis arrivé au Grand Luché, à la fin du Grand Luché, et j'ai trouvé Monsieur Gauthier. Et lui, il cachait toutes sortes de réfractaires, des Allemands qui s'enfuyaient de l'armée allemande. Hein, ça, j'en suis sûr. Et des autres gens, c'était moi le seul juif, mais il cachait toutes sortes de gens. Et dans les temps, j'ai compris quel acte ils ont fait, que même si les Allemands, ils auraient appris... ou chez les Martineaux, ou ces gens-là qui m'ont tous gardé, ils savaient qu'ils nous cachent, ils les auraient pris, ils les auraient aussi envoyés dans les camps de concentration. Ça, j'en suis sûr. Mais quand même, eux, ils savaient que ce qu'ils risquaient, et ils nous ont cachés, ils nous ont sauvé la vie. Alors un jour, je viens chez M. Coubard, et ce M. Coubard, il me dit, écoute, j'ai tout, parce que moi j'arrivais dans le bourg de Saint-Jean-de-la-Motte la nuit, parce que j'avais peur que les gens me voient pendant la journée. Alors je passais chez Monsieur Coubard, j'avais confiance, j'avais confiance en lui. Alors avant que j'aille voir ma mère, j'ai été chez lui. Alors il m'a arrêté, il m'a dit, écoute mon garçon, on a pris ta mère. Les Allemands, ils sont venus chercher ta mère, mais moi, j'ai pas voulu la donner, mais je ne pouvais pas faire autrement. Pourquoi? Parce que le notaire, l'avocat qui habitait en face de chez nous, il a dénoncé qu'on vienne les chercher, que les Juifs sont arrivés au bourg et qu'on vienne les chercher. Et il a donné cette lettre à Kuba que lui, ils envoient aux Allemands. Mais comme lui, il pouvait pas se dire que ce qu'il faisait, il était passé, il était obligé de passer cette lettre aux Allemands, que lui, on vient pas le prendre parce qu'il était le chef de la résistance dans la région. Après la guerre, je suis même que il était comme, il vendait des vaches, mais dans où il avait les vaches en haut, il y avait les armes, il emmenait des armes partout chez les gens. C'était certainement, il s'était organisé avec qui que j'étais, comme je vous ai dit, j'étais chez lui et que j'avais peur, je me suis ouvert. Peut-être qu'il avait, il en avait certainement un lien entre eux, et lui, il portait les armes ou qu'il devait les porter. Et il m'a dit, écoute, moi je ne peux pas attendre plus que ça. J'ai attendu 2 semaines, j'ai été dire à ta mère qu'elle se sauve que les Allemands, ils vont venir la chercher. Comme moi, j'étais maire, il m'a dit, c'est lui qui parle en ce moment, je parle à sa place. Il m'a dit comme ça, moi, je suis maire de Saint-Jean-de-la-Motte. Officiellement, j'ai reçu une lettre et il m'a demandé, ce notaire, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il est venu plusieurs fois me dire que ce qu'il y a avec la lettre, pourquoi on ne vient pas chercher les Allemands. J'ai été chez ta mère, je répète encore une fois, j'ai été chez ta mère, je lui ai dit de sauver, elle m'a pas voulu me croire, j'ai passé la lettre et tout de suite on est venu chercher ta mère avec ses 2 sœurs. On l'a envoyé de Drancy, on l'a expédié à Auschwitz en Pologne, et là-bas à Auschwitz on les a brûlés avec mes 2 sœurs. En 1944.
Il faut signaler que la personne dont il est dit qu'elle avait adressé la lettre de dénonciation a été arrêtée en décembre 1944 sous le motif de mesures administratives suivantes. A nuit à l'organisation de la résistance locale à Saint-Jean, aurait dénoncé les Sokolovski. Finalement, dans les semaines suivantes, il sera libéré et le dossier déclaré classé par la Cour de justice.
Thank you.
De nombreuses familles sartoises ont protégé des enfants juifs. Des organisations comme l'UJIF ou Notre-Dame de Sion ont activé des filières en collaboration avec des Sartois. Lucienne Clément de Lépine a joué un rôle reconnu dans l'acheminement et l'affectation dans les familles d'enfants juifs originaires de Paris. Elle a par exemple placé de nombreux enfants sur Montfort-le-Rotrou, commune dont nous reparlerons avec Josette Alia dans quelques instants.
Mais pour l'instant, ce sont des extraits d'un témoignage collecté par Jacques Chénier, historien sartois, et Franck Pohu que nous proposons d'écouter. Madame Mauboussin, qui s'exprime ici, avait 15 ans au moment de la guerre. Sa famille, qui résidait au sud du Mans, était engagée dans la protection d'enfants juifs.
Les premiers gamins, c'était en 42. On avait toujours des gens en vacances, des Parisiens, mais pas des juifs. Hein. Mais tous les ans, avant la guerre, on avait des Parisiens en vacances chez nous. Alors, mais là, au moment de la guerre, les premiers enfants juifs qu'on a eus, c'était en 1942. On a été en chercher plusieurs fois à Paris. Il y a la sœur de Sion qui en amenait aussi. On allait les chercher avec moi. Et bien, cette année-là, quand je suis allée à Paris, je ne me rappelle pas de l'année. Je ne sais pas si c'était 43. Mais je pense que c'était 43. Et on avait des amis qui venaient en vacances chez nous. Donc, on a passé la nuit chez les amis qui sont passés. Et après, on est allé à Sion prendre les enfants. Mais alors, à Sion, j'ai connu le père de Vaux. Donc, et Sion, c'était, le père de Vaux était d'un côté de la rue Notre-Dame-des-Champs. Et les sœurs étaient de l'autre côté. Et les enfants étaient de l'autre, avec les sœurs.
Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Parce que quand même, se promener avec une dizaine d'enfants...
était deux, il y avait papa et moi, non, alors même, on prenait les gamins...
Ça fait vraiment des vacances quand même.
Bah oui. Non mais là, c'était... Ça s'est très très bien passé, là, pas de problème. Hein.
Est-ce que les enfants ont reçu des consignes particulières pour faire le voyage? Oui.
Là, je ne sais pas ce qu'on leur a dit, mais on les mettait certainement. Puis c'est des attendez, c'est des gamins qui avaient déjà été dans les camps, que les parents avaient fait évader. Parce que vous aviez des parents qui étaient dans les camps et qui partaient pour prendre le train en Allemagne, pour aller en Allemagne, et ils faisaient échapper leurs gamins. Il y en a qui ont pu échapper comme ça, et qui se retrouvaient avec.
Et vous le sentiez dans le comportement de l'enfant, ces différences-là?
Oui. Vous savez, c'était des gamins qui étaient quand même... qui avaient peur, hein, ça c'est sûr.
Donc, vous arrivez dans le coin, Parnasse, avec votre dizaine d'enfants. Mmh. Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'abord, un compartiment... Il y en a plusieurs.
Mmh. On en avait deux.
Oui. Mmh. Et puis là, il y a des gens qui circulent quand même.
Mmh. Ben là, on a gardé nos gamins avec nous. Hein. Parce que c'était pas question que ça... Mais bon, on l'a fait avec risque tout, hein, la peur au ventre. Mais ça s'est bien passé, tant mieux pour nous.
Est-ce que vous imaginiez ce qui pouvait se passer en cas de problème?
Non.
Est-ce qu'il y avait des papiers d'identité?
Des faux noms, oui. Mmh. Oui, il y avait ça quand même.
Alors, vous arrivez à la gare du Mans, il faut donc changer de train. Donc, il y a une correspondance, elle n'est pas forcément immédiate.
Non, je ne sais plus là, je ne sais plus comment on a fait.
Vous avez toujours votre dizaine d'enfants, les gens, les autres personnes vous regardent ou ne vous regardent pas?
Non. À cette époque-là, les gens vivaient un peu, comment dire, un peu tout seuls. On n'allait pas vers les autres. Non, c'était chacun pour soi, là, vraiment. Vous savez, on n'avait pas de contact comme on a maintenant. C'était quand même la peur au ventre qu'on marchait. Hein. On n'allait pas s'épanouir. C'est pas évident. Hein. Faut le vivre pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on a passé. De ce qu'on a passé à ce moment-là. Il y avait pas mal de gens qui étaient au courant parce qu'on avait quand même 84 gamins placés dans la région.
Ah oui.
Alors, fallait bien quand même...
Il y avait,
on a eu, moi je dis, quand on fait le bilan de ça, on a eu une chance inouïe, inouïe. Quand on pense que pour tous ces gamins-là qu'on avait dans la région, il fallait quand même qu'on se procure les cartes de pain, les cartes de viande et tout ce qu'on avait comme, comme carte à l'époque, dans deux mairies, la mairie de Saint-Ouen-en-Blain et la mairie de Château-Lannemitage. Moi, j'allais à Saint-Ouen-en-Blain pour une partie des gamins, et papa allait à Château-Lannemitage pour l'autre partie. J'en entends encore là, qui viennent là. Ils disent, tu te rappelles qu'on couchait à, comment qu'on appelle ça, un au pied, tête bêche, ouais. dans le lit, il y avait des fois 6 à 7 gamins dans un lit de coin. Les premières nuits, quand ils arrivaient, on était obligé de faire comme ça d'ici que les gens les récupèrent. Parce qu'il fallait qu'on fasse aussi attention. Quand les Allemands étaient dans la région, parce qu'il fallait pas oublier qu'ils venaient faire quand même des manœuvres à 1 kilomètre de la maison. Alors, il fallait faire attention de ne pas trop bouger avec les gamins. Quand ils étaient là, tout le monde était ramassé. Hein. Parce qu'on en avait, il y avait des gamins placés sur 3 communes. Hein. On avait à Ivry-le-Poulain, Recueil et Saint-Ouen-en-Blanc. Vous savez qu'à l'époque, les petits gamins, quand ils étaient là, on travaillait, nous, hein.
Sûr.
À l'époque. Mais je pense qu'il y a des gens qui prenaient pour faire travailler ces gamins-là. Si on donnait une pension,
oui.
Et non seulement ça, mais il fallait leur porter les cartes qu'on récupérait dans les mairies, pour tous les mois.
En somme, vous étiez un centre de regroupement.
Un centre.
Et après, vous dispatchiez.
Ouais, voilà. Ouais.
Un peu comme M. Van Gilmer à Bonnetable.
Oui. Ah oui, oui, c'était ça. Hein.
C'est pareil, l'argent arrivait chez vous. Vous
voilà, papa portait l'argent dans les familles. Ah oui, et c'est Sion qui payait. Hein. C'est que Serran-Fourtour et Saint-Ouen-en-Blain, c'est séparé par 18-20 km. Mais à ce moment-là, on se déplaçait. Moi, je ne connaissais pas Serran-Fourtour. Hein. Ah ben non. On n'avait pas de moyen de se déplacer. Que le cheval et la corriole. Le plus âgé, il avait 14 ans. C'est un gamin qui s'est sauvé de la ferme où il était. Je me souviens pas de quelle ferme c'était à Saint-Ouen, toujours. Et il est parti de la ferme. Les gens nous ont averti que le gamin était parti. Il a été une nuit sans qu'on sache où il était. Et les Allemands faisaient les manœuvres à 1 kilomètre. Moi, j'ai failli mourir. Là. Parce que les Juifs, ils ont dit à mes parents, il faut faire venir le médecin. Parce que Colette s'en va.
Parce que
La peur, oui. J'ai eu peur que le gamin soit retrouvé par les Allemands. Et puis j'ai dit, ça y est, on y pense plus. Les deux premiers sont allés à l'école.
Donc,
on les a même fait baptiser.
Oui,
les deux premiers.
C'était pour camoufler.
C'était pour camoufler. Mais après, ça a été fini.
Donc
hein.
Le curé.
T'es au courant.
Au courant. Et tout ce qui tourne autour de l'église.
Oui.
Au courant. L'instituteur.
Ben, ils étaient au courant. Mais il y a que ceux-là qui sont allés à l'école et baptisés.
Oui, mais quand même.
Les deux premiers.
Quand même, ça veut dire que tout le monde savait qu'il y avait quelque chose chez vous.
Ces gens oui, ils savaient.
Ça fait, au total, ça fait combien de personnes qui pouvait être écrit.
C'est incroyable. Hein. Je ne sais pas, je peux pas dire le nombre de personnes. Parce que nous, on fonctionnait normalement, si vous voulez, dans la commune. Parce qu'on allait à la mairie, ils allaient à l'église, la preuve. On fonctionnait normalement avec le patron.
Il y a quand même des Juifs, il y a Pétain, il y a le discours antisémite. Alors, par rapport à Pétain, est-ce que vous avez des souvenirs de vos parents, comment, quels étaient leurs sentiments par rapport
non.
à tout ça?
Il faut que je vous dise, on ne lisait pas les journaux, on n'avait pas l'électricité, donc on n'avait pas de poste de radio. On vivait en dehors du monde. Hein? On ne voyait que les avions qui venaient bombarder le Mans, là on était placés pour. Et c'était comme ça qu'on... Sinon, on n'avait aucune connaissance de rien, si vous voulez. On n'avait pas de poste. On avait On n'avait aucune connaissance. On n'achetait jamais le journal.
Oui, mais vous saviez quand même qu'en accueillant des enfants.
Ah oui, ça, on savait qu'on était,
donc,
qu'il fallait avoir la trouille.
À un moment donné, vous ayez la formation.
Oui, oui. Mais enfin, on était quand même informés par Paris. Mais c'est tout, hein. On n'a fait pas. Non, mais c'est ça que vous avez du mal, là. C'est, on a vécu.
Non, il a quand même pas vu ce que je veux dire par là, c'est que quand vous accueillez des enfants juifs, oui, vous savez parfaitement bien que vous n'avez pas le droit de faire.
On n'avait pas le droit, oui.
Bon, si vous saviez que vous n'aviez pas le droit de faire, c'est que vous saviez aussi que Pétain était antisémite.
Ah oui,
allemand.
Oui.
Alors, c'est, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous avez découvert qu'il l'était.
Je ne sais pas. Là non. Je crois qu'il ne faut pas aller si loin. Parce que, je vous dis, on n'avait aucune connaissance. On n'avait pas les journaux. Et sur les journaux, vous pensez bien que pendant la guerre, ils mettaient tout ce qui les arrangeait. Un poids, c'est tout. Hein? Ils ne mettaient pas autre chose. On n'était pas informés. Alors, pas de poste de radio, on n'avait rien. D'ailleurs, aussi sur les postes de radio, il y avait des postes où ils disaient ce qu'ils voulaient. Et sur d'autres, bon, ben, fallait faire attention pour les prendre. Et comme on n'avait pas l'électricité, on n'avait absolument aucune nouvelle.
L'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, écusson d'or qu'on porte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant. Jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas. Et chacun les regarde, saluant chapeau vent. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la deuxième DB. Au coin du feu, dans la paix radieuse, très fièrement auprès de leurs enfants, ils compteront l'histoire merveilleuse des bataillons de notre régiment. Gars de Leclerc sera le mot de passe qui groupera la poignée de Français. Malgré qu'on la défaite passe, restant debout, ne se rendant jamais. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant. Jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas. Et chacun les regarde, saluant chapeau bas. De terre, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant. DB, vive la deuxième DB.
Cette émission consacrée à la Shoah en Sarthe a été réalisée par les lycéens de première L du lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume dans le cadre de l'option radio et en collaboration avec les enseignants de lettres et d'histoire. Nous remercions pour leur initiative et leur soutien la Fondation pour la mémoire de la Shoah et le Mémorial de la Shoah à Paris, ainsi que la région des Pays de la Loire dans le cadre de son programme d'action éducative sur l'éducation à la tolérance et à la paix. Nos remerciements particuliers à Charles Zelti, Alban Perrin, Charlotte Le Provost, à Franck Pohu et Jacques Chénier, à nos confrères du lycée sud de la classe de Madame Baudineau, et notre très grande reconnaissance à Monsieur Henri Joannovici, Madame Josette Alia et Madame Simone Veil pour nous avoir reçus. Cette série radiophonique est une production Fréquence Sillé 97.9 en Pays de Haute-Sarthe.